minutes, exploration d'une planche iconique du 9e art. Ce mois-ci, nous allons partir en voyage avec les passagers du vent de François Bourgeon. Alors, l'actualité, c'est que nous avons une belle exposition à la Cité de la BD d'Angoulême. François Bourgeon et la Traversée des Mondes, qui a commencé en juillet 2023 et que vous pourrez voir jusqu'au 5 mai 2024. François Bourgeon vient, après plus de 20 ans d'interruption, de mettre un terme au deuxième cycle de cette magnifique saga Les Passagers du Vent, qui est une véritable révolution dans la BD adulte historique. Alors, nous allons commenter deux planches, les planches 21 et 22, du premier album de la série. C'est la première série solo créée en 79 par Bourgeon. C'est une saga romanesque qui, elle, va être découpée en albums. Prix du premier album à Angoulême, c'était des pages de la revue Circus qui ont été agrafées et qui ont conquis le jury en 79, eh bien, nous rappeler aussi qu'à l'époque, on avait la chance de lire ça dans des revues. C'était d'abord la revue Circus, et puis la revue Vécu, la revue de la BD historique qui était publiée par Glénat en 85. Alors, je vais vous donner un peu le pitch de la série qui est donné par François Bourgeon, parce que c'est très difficile de résumer cette saga. Alors, voilà comment il résume un peu son travail. « Pour se venger et fuir, Isa choisit l'exil. » Passagère du vent sur les routes océanes, elle subit les guerres, rencontre les prisons, découvre l'horreur des traites négrières qui assurent l'enrichissement des Amériques et des Antilles. À jamais éprouvée par toutes ces expériences, Isa n'en aime pas moins la vie. Elle aimera les hommes, elle aimera des femmes, mais avant tout sa liberté. Voilà, donc on voit tout de suite un peu la philosophie qui est derrière cette saga, on y reviendra largement, et nous rappeler qui est François Bourgeon, qui est toujours parmi nous. Il est né à Paris en 1945. Il voulait être chirurgien, mais bon, ça ne va pas coller. Il va très vite partir de la capitale après avoir fait des études aux arts et métiers. Et il va travailler de ses mains, puisqu'en fait, il va obtenir un diplôme de maître verrier. Il a un grand goût du Moyen-Âge. Toutes ces histoires, on va retrouver ça dans ses bandes dessinées. Il obtient un travail vraiment à la dernière minute pour faire un dessin pour Lisette en 71. Et il va se prendre au jeu de la littérature et des revues pour la jeunesse. Il va publier dans la revue Jean de Fleurus, les très belles séries Magica, Brunel et Colin aussi. Et la première bande dessinée en 71, c'est une bande dessinée sur les bâtisseurs, Maître Guillaume, pour un éditeur catholique, Univers Média. Et donc après, nous avons les Passagers du Temps qui commencent en 79. Et cette saga va être complétée de deux autres sagas qu'il va mener en parallèle. Une série sur le Moyen-Âge, Les Compagnons du Crépuscule, en 83, avec La Croix. Et ensuite, une série plutôt science-fiction, le cycle de Sian. François Bourgeon refuse d'être exploité par le système de la bande dessinée. On le voit quasiment jamais dédicacé et il n'est pas dans le marché de la vente de ses originaux. Donc deux points importants puisque la plupart des artistes aujourd'hui sont bien dans ce business des planches et de... Voilà, Bourgeon est très singulier et il se définit comme un scénariste et aussi un conteur. C'est lui qui fait vraiment toutes ces histoires. Il a le plaisir de se documenter pour la série Les Passagers du Vent. Il visite régulièrement le musée de la marine. Il voyage, il prend des photos et il fait des petits modèles. Il modélise, il fait des maquettes. Donc notamment, il a réalisé le bateau négrier nantais. Il a réalisé le fort de Judas. Quand on ouvre les premiers albums aux éditions Glénat, on voit les maquettes et les plans qu'il a suivis. Et il a écrit une trame globale de son histoire qu'il va modifier au fur et à mesure de son inspiration. Voilà. Alors, nous allons écouter la planche et je vais vous donner quelques éléments pour vous situer l'histoire de façon plus précise. Alors, nous sommes quelques années avant la Révolution française, sur le Foudroyant. C'est un navire de guerre de la Marine Royale. Nous avons O.L. qui est un membre de l'équipage. Il aperçoit deux jeunes filles sous la dunette. Piqué par la curiosité, il va regarder qu'est-ce qui se passe, mais il est pris par quelqu'un et il est mis au fer. On n'a pas le droit de sortir de la zone réservée à l'équipage. Et il y a un jeune homme qui vient lui rendre visite. Ce jeune homme, c'est une des deux jeunes filles qu'il avait matée. Et cette jeune fille, finalement, va tomber amoureuse de lui. Il va y avoir une idylle. Et finalement, cette Isa va lui raconter comment, jeune enfant, elle avait échangé par jeu son identité avec son ami, ce qui lui a valu de perdre son titre de noblesse. Et après diverses péripéties, notamment un combat contre des vaisseaux britanniques, O.L. va être fait prisonnier par la Royal Navy. Isa, elle, va essayer de rester libre et dans le tome d'après, elle va essayer de faire évader cet homme qu'elle vient de rencontrer sur un bateau. Et là, nous allons écouter le moment crucial de la rencontre amoureuse et de la confidence de Isa et de Oel. Début premier tome des Passagers du Vent, planches 21 et 22.
C'est déjà la relève.
Tu veux rire, Matelot ? J'ai manqué 10 fois de me rompre le cou pour pas venir jusqu'à toi. C'est pas pour le plaisir de te voir redescendre ? Que penses-tu de mon nouveau costume ? C'est de la véritable toile à prélard. J'ai trouvé ça dans le caisson qui est sous notre matelas. Plutôt chou, non ?
Sois gentil de retirer ça tout de suite.
Hola, hola ! Ne suis pas fille à mes feuillets à la demande. Change rapidement d'idée si tu ne veux pas tomber de haut.
C'est toi qui vas tomber de haut si tu persistes à garder tes sabots dans la mâture. Retire ça, je te dis.
Remarque. Je l'ai trouvé bien un peu glissant, mais j'ai pensé qu'il faisait partie de la tenue de pluie du parfait matelot. C'est plutôt étroit, ton perchoir. Tu me fais une petite place ?
Tu as des précisions pour demain ?
Personne ne sait rien. On ignore même le nombre de navires ennemis. Que t'a-t-on donné comme arme ?
Une hache d'abordage.
Oh, la belle affaire. Il faut que tu me procures un fusil boucanier.
Tu es folle. On ne confie ses armes qu'aux meilleurs tireurs et je sais à peine me servir d'un pistolet.
Débrouille-toi ! Il nous en faudra un pour notre petite évasion.
Pourquoi ?
Aurais-tu oublié notre pacte ? J'ai besoin de toi pour emprunter une embarcation. Avant Saint-Domingue, si nous n'y laissons pas notre peau, nous aurons tous les deux déserté la Royale.
Charmant programme. Mais quel est le rôle du fusil ?
Avec ce type d'arme, je suis certaine de pouvoir faire sauter la cervelle du commandant s'il décidait de nous faire canonner. Bien sûr, nous essaierons de nous enfuir de nuit sans nous faire remarquer, mais il faut tout prévoir. Il nous reste peu de temps. Hoël !
Quoi encore ? Faut que je te procure une pièce de 38 ?
Fais pas le con. Ça t'intéresse pas de savoir ce que je fiche sur ce tas de bois ? On est curieux ou pas, hein ? Allez, viens donc te rasseoir près de moi. Ça m'évitera d'avoir à hurler. Et puis je crois, j'ai un peu le vertige.
Oh là là ! Ne va pas te casser la figure, hein ? C'est qu'il y a plus de 100 pieds d'ici le pont.
Je crois que ça ira mieux si je parviens à libérer ma tête d'une partie des souvenirs qui s'y entrechoquent.
C'est ça, c'est ça. Tu vas me raconter ton histoire. Ça te fera du bien. Et moi, ça m'empêchera de penser à la grande fête qui se prépare pour demain.
C'est donc vraiment aussi terrible que ça ? Un combat naval ?
C'est pire. Mais parle-moi plutôt de toi. Il était une fois une petite fille...
Non pas, hélas. Il était une fois deux petites filles. Deux petites filles qui se ressemblaient comme deux sœurs. La plus jeune se nommait Agnès. Son père, Simon de Roselande, n'avait pas cru bon de s'embarrasser d'elle à la cour, où il se consolait de son veuvage en compagnie de son fils aîné, Benoît, alors âgé de 32 ans.
Benoît de Roselande ? Mais c'est le capitaine, le commandant de ce vaisseau.
Chut, ne m'interromps pas.
Voilà, alors un petit commentaire de ces planches, voir que nous sommes dans un univers qui est très documenté, puisque nous sommes à la fois dans l'intime et dans l'aventure. Nous avons des personnages qui se retrouvent sur le mât d'un bateau. Le bateau est très documenté, puisque Bourgeon a vraiment fait la maquette de ce qu'il dessine. On a une grande sensualité dans les traits, hein, dans la façon dont ces personnages sont représentés, hein, notamment Isa, avec des tons rouges et jaunes. Un code couleur qui est très chaleureux. Et on a pas mal de dialogues, effectivement, puisqu'en fait, il s'agit aussi de raconter, de mettre en avant, d'emboîter hein, la grande aventure, l'épopée et le traumatisme intime. Et donc, sur le plan visuel, on a à la fois des plans d'ensemble et des zooms qui s'assemblent. Et ce qui est très intéressant, c'est que on a à chaque fois, ce qui est révélateur de cette série, c'est le rapport finalement du souffle de l'aventure et des états d'âme de personnages qui vont chercher leur liberté à travers, ils vont être confrontés à l'esclavage, à la passion amoureuse et pas mal de choses. Donc, la personne qui apparaît là, qui apparaissait comme un garçon, c'est une femme qui revendique sa liberté, elle s'appelle Isabeau, c'est l'héroïne des Passagers du Vent. On peut dire que c'est une femme qui aspire à être libre et qu'elle est vraiment empreinte de passion et de colère et qu'elle est d'une sensualité exacerbée. Il y aura énormément de scènes de sexe et de nu, plutôt suggérées, mais quand même à l'époque, c'était pas courant dans la bande dessinée. On peut dire que cette Isa, elle a aussi une fonction d'humanisme, de rébellion, elle va dénoncer la traite des Noirs et finalement, elle va avoir quelque part la fonction, si on prend les archétypes jungiens, d'être une anima forte qu'on va retrouver dans les compagnons du crépuscule avec le personnage de Mariotte et dans le cycle de Sian avec le personnage de Sian. Donc effectivement, ce personnage féminin, il est récurrent hein, dans les BD de François Bourgeon. Alors, les BD de François Bourgeon, c'est effectivement, on l'a bien compris, il y a trois univers. Là, on est dans l'univers du XVIIIe siècle, mais il va faire aussi quelque chose autour du Moyen-Âge et du futur. Et donc, ces personnages féminins se définissent aussi par leur rapport au masculin, avec là l'idée de O.L. qui est un marin breton. Un marin breton, bah, la Bretagne, c'est tout l'imaginaire qu'a Bourgeon autour des mythes et des légendes. Et il va y avoir aussi tout un pan de la culture anglo-saxonne, puisque dans le deuxième tome, Isa va rencontrer son binôme féminin, qui est Mary, qui est une jeune anglaise délurée, et donc qui ne rentre pas dans les codes de la bourgeoisie. Donc on a une espèce de couple à trois qui va se développer dans la suite de l'histoire. Et c'est quand même assez innovant dans la bande dessinée dans les fin des années 70. Voilà. Alors, les influences de Bourgeon sur le plan graphique, c'est des séries comme Black Le Rock, série d'aventure, les grands classiques Tintin, Spirou, aussi un grand penchant pour la science-fiction avec Bilal, Mézières et Giraud, et aussi peut-être pour cette quête de liberté, le travail qu'a fait Hugo Pratt. Et aussi le rapport avec le travail de Claude Lacroix. Hein, Claude Lacroix va scénariser des BD avec Bourgeon, et Claude Lacroix était l'auteur d'une très belle bande dessinée qui s'appelait Yann le Migrateur, aussi sur la question de la découverte de différents types d'univers. Et voilà. Alors, il y a énormément de références cinématographiques aussi chez Bourgeon, qui est un grand cinéphile. Hein, il va y avoir une ambiance à la Kurosawa, à la Bergman. Bien entendu, des rapports avec les pirates, Robert Louis Stevenson, et des documentations très, très précises. Hein, c'est-à-dire qu'il va relire les voyages de la Pérouse au 18e. Il va lire et utiliser le travail d'un ethnologue, Pierre Verger, qui s'appelle « Flux et reflux de la traite des nègres ». Et aussi se documenter sur le travail d'un architecte, Jean Baudriot, qui avait documenté un vaisseau de 74 canons qui dataient de 1780. Donc tout ce travail-là va nourrir les images que l'on va découvrir dans Les Passagers du Vent. Alors, le dessin de Bourgeon, c'est un dessin réaliste, souvent au pinceau et à la plume. Il a un sens de la couleur qui lui vient de son métier de vitre. Il travaille sur les vitraux à la gouache, donc il a cette idée de que la lumière véhicule des émotions. Et il enchaîne les points de vue, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discussions, et il y a finalement, on ne peut pas dire que c'est contre le... Il essaie de comprendre les points de vue de chacun, donc c'est pas des pamphlets contre, mais c'est essayer de comprendre le point de vue de l'ennemi aussi, avec un grand sens du rythme, et des fois on explose les cases classiques avec des phylactères, avec pas mal de dialogues, et bien entendu, énormément de documents d'époque qu'on va retrouver, c'est-à-dire notamment des cartes et des personnages qui vont être issus de photos qu'il a trouvées dans des encyclopédies. Voilà. Alors, les grandes thématiques des Passagers du Vent, j'ai envie de dire, il y a une thématique très politique autour de la traite des Noirs, hein, qui commence à 1542, et l'abolition va être en 1794. Donc là, on est en plein milieu de ce truc-là, qui est terrible, et qui est notamment matérialisé dans la série par le commerce triangulaire entre Nantes, le royal de Juda Dahomey, donc on est au sud Bénin, et Saint-Domingue, actuellement la République dominicaine et Haïti. Et en même temps, au cœur de la série, à partir du tome 3, on va avoir toute une ambiance de magie autour de malédictions vaudou. Donc à la fois de l'histoire et de la magie. Voilà. Donc cette histoire, elle va avoir une grande postérité, elle va s'étaler sur plus de 20 ans. Hein. Donc effectivement, on a un cycle de 5 albums avec beaucoup d'éditeurs. Hein. Au début, on est chez Glénat, il va passer chez Casterman, 12 bis, Delcourt, Hachette. Et le deuxième cycle, lui, se fait 25 ans après. Alors c'est assez étonnant, le deuxième cycle, c'est les aventures de l'arrière-petite-fille d'Isa, qui s'appelle Zabo. Alors ça va se passer pour 2 tomes en Louisiane et pour 2 tomes pendant la Commune de Paris. Et là, le dernier tome est sorti l'an dernier. Et donc, à travers cette héritière, Bourgeon va évoquer la guerre de sécession, puisque Zabo va être une jeune sudiste dont la propriété est confisquée par les nordistes. Et elle va rencontrer Isa, qu'on a découverte très jeune et amoureuse dans l'extrait. Isa, là, elle va être centenaire et elle va lui raconter un point aveugle, c'est-à-dire à la fin du premier cycle, elle va avoir un enfant métis et cet enfant métis va avoir une histoire tragique qui va marquer sa généalogie. Et enfin, Zabo va migrer en France et va se retrouver en plein conflit franco-prussien et va vivre les événements de la Commune qui ont été documentés par Tardy en bande dessinée. Voilà. Donc vraiment quelque chose d'étonnant. Alors, si cette bande dessinée est si culte, je pense qu'elle a un sens profond. Alors, plusieurs niveaux de sens peut-être pour finir et conclure. Vraiment une bande dessinée qui questionne et qui met en avant l'importance de l'amour et de l'amitié dans les relations humaines. Et en contrepartie, une certaine désillusion. Bourgeon est quelqu'un daté, qui était plutôt de gauche, mais déçu par la gauche. Donc on sent en filigrane une espèce d'amertume. Et l'idée que le temps est élastique, et qu'effectivement, les passagers du vent, c'est les passagers du temps, une aventure au long cours, qui est sur plusieurs générations. Et ce qui est très beau, qu'on a retrouvé chez Jodorowsky, c'est cette idée de la psychogénéalogie, c'est-à-dire comment les choses passent d'une génération à l'autre, et que les passagers du vent, c'est finalement l'éternelle révolte du féminin, de l'éternel féminin, face à un monde masculin qui promeut la guerre éternelle. Et je crois que c'est un beau pied de nez à notre actualité actuelle. Voilà. Donc on invite les auditeurs à se replonger dans tous les albums de cette belle série, Les Passagers du Vent, avec François Bourgeon, un passager du temps qui a su nous émerveiller. Merci, monsieur Bourgeon.